Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell. Aujourd'hui, on reçoit la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France qui vont nous parler du flicage donc, des précaires.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire et vous écoutiez Fantasio, un morceau qui s'appelle Jimini, de son nouvel album qui vient de sortir il n'y a pas longtemps.
Donc vous êtes avec les amis d'Orwell, donc c'est Béné à la technique et on reçoit Laurent et Christophe, donc ils font partie de la coordination des intermittents et précaires. Ça serait peut-être bien de commencer par nous expliquer ce que c'est que cette coordination et comment elle est née.
Ouais, bah rapido, parce qu'il y a un thème de l'émission quand même. Mais enfin, en gros, la coordination s'est constituée en juin 2003, au moment où il y a eu une réforme de l'assurance chômage qui visait plus particulièrement les intermittents du spectacle, c'est-à-dire les annexes 8 et 10 de l'UNEDIC. Ce que cette réforme a foutu en l'air, c'est le fait qu'il y a une date annuelle anniversaire, disons, et une durée annuelle d'indemnisation, etc., en introduisant ce qui se passe depuis, à savoir que la durée d'indemnisation est plus courte. Et que donc on est obligé, enfin on est dans une incertitude beaucoup plus grande. Énormément de gens ont été évacués du régime spectacle par le biais de cette réforme. Voilà, en gros. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un système assez mutualiste qui faisait que les gens qui faisaient le moins d'heures, pas loin du seuil horaire annuel nécessaire, 507 heures, etc., arrivaient à toucher des indemnités. Qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué et c'est un système qui privilégie plutôt les gens qui gagnent de l'argent, qui travaillent beaucoup, etc., qui, eux, sont susceptibles d'être indemnisés le plus facilement et beaucoup moins les gens qui font moins d'heures. C'est-à-dire, c'est une réforme comme les autres, comme celle des retraites, comme les autres réformes du chômage, qui indexent les droits sociaux sur la durée d'emploi de manière de plus en plus stricte. Voilà, dans des boulots où les gens travaillent de manière discontinue, enfin, ou peuvent même travailler de manière continue et être employés de manière discontinue, parce qu'il y a énormément de taf qui se font où on travaille en fait plus ou moins sans cesse à préparer des projets ou à monter des créations, etc., à monter des choses. Et qu'en même temps, le volume horaire d'emploi officiellement compté n'est qu'une partie du travail réalisé. Donc bon, voilà, ce régime permettait de donner les moyens de travailler à des gens, enfin le minimum de conditions matérielles pour pouvoir réaliser ce travail, dans la mesure où le volume horaire d'emploi sur l'année peut être assez faible. Et maintenant, c'est plus le cas, c'est indexé sur le temps d'emploi de manière beaucoup plus stricte.
Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, à la coordination des intermittents et précaires ?
Alors, dès ce moment-là, en 2003, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même un mouvement assez important, puisqu'il y a eu, par exemple, une grève au Festival d'Avignon, des dizaines et des dizaines d'actions, avec, par exemple, le blocage des masters de films qui devaient sortir le mardi dans des entrepôts parisiens, des prises de plateaux télé, toutes sortes de formes d'actions, des interventions en direct sur les télés, des grèves, etc. Dès ce moment-là, on s'est soucié comment dire, aussi d'entamer toute une réflexion sur ce que pourraient être des droits sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire à une époque où quand même depuis des décennies déjà, la discontinuité de l'emploi est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup de gens, bien au-delà des intermittents du spectacle à strictement parler. Par exemple, les intérimaires dans la nomenclature officielle, ça s'appelle des intermittents de l'industrie et des services. Par exemple, aujourd'hui, 80% des embauches ont lieu en CDD. Bon, et c'est le cas depuis très longtemps, donc pour des durées qui peuvent être très variables, mais qui peuvent être aussi très faibles. Donc on s'est préoccupé de ces questions. Dès l'époque, on a proposé un nouveau modèle d'indemnisation du chômage qui soit adapté en fait à la discontinuité de l'emploi que connaissent tous les entrants dans le salariat pour quelques années, enfin bon, les jeunes et tout ça, et même beaucoup d'adultes, voire de parents, etc., dans un certain nombre de branches. Sans compter la question du chômage de longue durée, du licenciement. Bon, donc on a élaboré un nouveau modèle. Aujourd'hui, on fait des choses dans la continuité de ce qu'on a fait à l'époque, c'est-à-dire de défendre le fait qu'il y ait des droits sociaux et qu'on ne soit pas tributaire des formes d'emploi, enfin, dépendant complètement des formes d'emploi. Et de leur durée. Et donc, on a organisé des permanences sur les droits.
Pas seulement sur les intermittents du spectacle, en fait.
Non, bah dès le départ, ça a été une décision parce qu'en fait, les intermittents du spectacle, comme les chômeurs, enfin intermittents du spectacle, d'une certaine manière, ça veut dire ceux qui sont indemnisés dans le régime de l'intermittence du spectacle. Mais il se trouve que, comme les chômeurs, à des moments donnés, la majorité des intermittents n'en sont pas, c'est-à-dire ne sont pas indemnisés. C'est-à-dire que beaucoup de gens sortent de l'indemnisation pour un temps ou même sont obligés de faire autre chose, survivre autrement. Bon, aujourd'hui, il y en a beaucoup au RSA, par exemple, ou sans RSA, s'ils ont un conjoint ou s'ils ont moins de 25 ans. Enfin, bon, il y a tout un tas de cas. Et donc, dès le départ, on n'a pas du tout voulu être une lutte, disons... seulement de statutaire, entre guillemets, ça aurait été un peu une folie vu le mouvement en fait, qui existe et qui fait qu'on peut tantôt faire des heures du régime général, enfin qui ne valent pas pour les annexes 8 et 10 du spectacle, tantôt être non indemnisé au régime spectacle, tantôt être indemnisé au régime général ou pas, enfin, etc. Donc c'est dans le « et » qu'il y a quand même un centre de gravité assez fort de l'activité qu'on a menée, le « et précaire ». Voilà, et dès le départ, il y a des gens qui n'étaient pas du spectacle dans cette coordination. Et dès le départ, surtout, il y avait l'idée de dire que si le régime des intermittents du spectacle était attaqué, c'est parce qu'il représentait d'une certaine manière un modèle pour beaucoup de précaires qui pouvaient être investis par beaucoup de précaires en termes de quel type de droits sociaux on peut réclamer au-delà de l'emploi, de chaque entreprise, de chaque patron, de chaque contrat, etc. De quel type de droits on a besoin. Selon nous, c'est pour ces raisons que ça a été attaqué, et non pas du tout pour les raisons de déficit économique, etc. D'une certaine manière, il y avait un modèle politique là-dedans qui est un peu l'inverse de l'insécurité sociale qu'on est en train de nous fabriquer bon, depuis 35 ans maintenant, mais voilà quoi. Donc dès le départ, c'était effectivement et précaire, donc des gens de tout type de secteur. Bon, et on a été toujours très proche des diverses luttes de précaires qui ont pu avoir lieu depuis. Voilà, dans différents secteurs, y compris des collectivités territoriales ou d'autres. Enfin bon. Donc les permanences sur les droits, il y en a une qui est spécifique aux annexes 8 et 10 parce qu'il y a une certaine technicité de ces régimes. Enfin, il y a tout un tas de problèmes qui se posent là-dessus spécifiquement. Bon, c'est toujours un peu une jungle et tout ça. Et d'autre part, on a une permanence précarité où on peut bosser ensemble avec les gens qui se pointent, essayer de comprendre ce qui se passe, de régler les problèmes, d'agir collectivement, de faire des recours, etc. À la fois sur le régime général du chômage et sur les minima sociaux, voire sur des problèmes de logement, des problèmes de CMU, etc. Quoi.
Donc, ce qui serait bien, c'est de rappeler, en fait, depuis pratiquement 2003, vous êtes installé dans un local.
À la fin 2003, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a occupé des locaux successivement. On a d'abord occupé la grande halle de la Villette, où on tenait assemblée générale très nombreux. Ensuite, on a occupé un local pas loin des studios de la radio, d'ailleurs, la salle Olympe de Gouges, une salle municipale qui nous permettait donc de, à la fois d'avoir plusieurs dizaines de commissions, des assemblées générales importantes. Enfin, on avait besoin de locaux pour les activités qu'on menait. C'était l'été, là, 2003. La ville avait été obligée de nous concéder cette salle pour la durée de l'été avant qu'il y ait la reprise d'activité ordinaire de cette salle municipale. Ensuite, ils nous ont fourni un local pas terrible, dans le bras de fer qu'on avait avec eux pour un relogement. Puis à ce moment-là, comme on était très mal installé dans un ancien commissariat, etc., et qu'on ne voyait pas venir de relogement ailleurs, dans un endroit possible pour pratiquer ce qu'on avait à faire, On a mené plusieurs occupations, enfin un hôtel particulier de Depardieu dans le 7e, là, dans la rue de la, où il y a la pagode, une salle municipale, le couvent des Récollets, d'autres actions, etc., pour obtenir un relogement. Et donc, fin 2003, on a obtenu les locaux qui sont quai de Charente, hein, donc au 14 quai de Charente dans le 19e, qui sont assez adaptés à ce qu'on faisait à l'époque et ce qu'on a pu développer depuis. Et actuellement, on est par contre menacé d'expulsion parce qu'en fait, on avait une convention d'occupation pour une certaine durée. Et puis, cette convention a pris fin. Et puis, ça a beaucoup traîné parce qu'on a essayé de négocier avec eux, un relogement, mais ça se passe pas très bien. Ils nous ont fait des propositions bidons qui n'étaient pas acceptables, qu'on a dû refuser. Maintenant, ça fait un an à peu près qu'on leur a proposé de nous reloger dans un endroit qui est vide, dans le 11e arrondissement. Ils nous ont toujours pas répondu sur cet endroit-là, qui est boulevard de Charonne. Et tout récemment, on a dû interpeller à plusieurs reprises le maire de Paris pour essayer d'obtenir un relogement correct. Et puis, on en est là, quoi. On l'a interpellé dans plusieurs de ses réunions publiques. On a lancé une pétition contre l'expulsion qu'on peut trouver sur notre site et qu'on invite tout le monde à signer, qui s'appelle « Nous avons besoin de lieux pour habiter le monde ». Et donc,
tu peux donner l'adresse du site.
Qui exige un relogement pour la coordination. Donc le site, c'est www.cip-idf.org. Et puis slash après, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, et donc ça se trouve en haut à droite du site, ça s'appelle « Nous avons besoin de lieux pour habiter le monde ». Là, pour l'instant, il y a 5100 ou 200 signataires, dont pas mal de gens du spectacle, d'Intellos, etc., mais aussi beaucoup de gens chômeurs, précaires, des collectifs, des organisations, des sections syndicales, des radios, des lieux, enfin bon, voilà, des squats, bon, toutes sortes de gens qui pensent qu'un lieu, parce qu'en fait, c'est quand même il y a une éternité, d'une certaine manière, 2003, il s'est passé beaucoup de choses depuis, enfin une éternité, en tout cas pour une coordination en général, c'est pas des choses qui durent très longtemps. Nous, on a quand même continué à faire des actions assez offensives, bon, l'occupation de la CFDT, l'occupation du MEDEF, du ministère du Travail, l'occupation de pas mal de choses, des manifestations un peu importantes, des actions régulières sur des choses. Et puis en même temps, on a développé tout un tas d'activités à partir de ce local. Donc ces permanences sociales, une université ouverte qui très régulièrement essaye d'analyser, bon, soit sous forme d'ateliers, soit sous forme d'interventions de gens plus ou moins conférenciers. Tout un tas de questions liées à la gouvernementalité néolibérale. On s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Foucault. D'autre part, on fait une espèce de cantine autogérée, à prix libre. Enfin, c'est un espace plutôt non marchand. Normalement, tout est à prix libre, à part le bar qui est pas cher, enfin qui est fait pour être accessible aux précaires. La bouffe, en tout cas, est très peu chère parce qu'on tient à ce que les gens puissent bouffer. Et puis, comme ça nous semble la moindre des choses de convivialité, etc. C'est très difficile à Paris de mettre un pied dehors si on n'a pas les moyens d'y être pour boire, manger, voir un spectacle. Il y a aussi beaucoup de concerts de soutien ou de réunions de lutte, etc. Bon, beaucoup de mouvements depuis 2003 se sont réunis ou ont fabriqué des banderoles ou des commissions ou des tracts ou des communiqués, etc. Quai de Charente. Enfin bon, c'est un lieu de lutte, une espèce de centre social, voilà. Et on pense que c'est nécessaire dans une ville comme Paris où il y a quand même beaucoup de pauvres malgré toute la richesse et où il y a très peu d'espaces non marchands et très peu d'espaces d'auto-organisation surtout. Donc voilà. Donc, les permanences sociales, c'est le lundi. Donc, si les gens ont des problèmes avec la CAF, avec Pôle emploi, avec la Sécu, machin, etc., ils peuvent se pointer entre 15 et 17h30 hein, ou nous écrire. Ils trouveront aussi sur le site. Bon, le mieux, c'est de poser des questions détaillées sur les embrouilles qu'on a, un droit qui ne s'ouvre pas, un indu, un contrôle, une radiation, etc. Et on essaye de bosser ensemble pour régler les problèmes, soit par téléphone, par courrier, par recours, etc., soit en menant des actions concrètes, ce qu'on fait très régulièrement face aux institutions concernées, quoi.
Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout particulièrement le contrôle des précaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit progressivement ?
Bah, Non, ça s'est construit progressivement. Je pense qu'une des premières mesures, bon, mais les gens le savent assez peu, c'est par exemple la loi sur le contrôle des chômeurs. Elle date de 1992, époque où Martine Aubry, donc actuelle tête de liste du PS, enfin, je sais plus quoi, responsable national du PS, était ministre de l'Emploi, et où on a inversé la charge de la preuve en ce qui concerne les chômeurs. C'est-à-dire qu'avant, les chômeurs, on devait les aider à trouver un emploi, etc., par le biais de la NPE, et vérifier qu'ils faisaient des recherches d'emploi, etc. Mais à ce moment-là, il y a eu une espèce de suspicion de culpabilité qui s'est instaurée, où au contraire, le chômeur devait fournir des preuves de recherche d'emploi, quitte à bidonner d'ailleurs au maximum pour passer à travers les fourches codines, etc., sous peine d'être radié. Donc là, il y a eu une espèce de basculement. Déjà, bon, c'était 4 ans après le RMI, hein, qui date de 88, et qui était une mesure relativement ouverte, quoi qu'on en dise, en termes de droit. Enfin bon. Enfin, malgré l'interdiction aux jeunes, malgré le fait que ça soit familial et pas individuel, malgré la faiblesse du montant, etc. Enfin, toutes les critiques qu'on peut tout à fait faire au RMI. En 92, il y a eu quand même ce tour de vis du contrôle des chômeurs. Et effectivement, cycliquement, même dès le début des années 80, Bérégovoy, des gens comme ça, qui étaient donc premier ministre à un moment, avaient entonné le discours des faux chômeurs, qu'il allait falloir vérifier, etc. Donc c'est quelque chose... qui est quand même assez cyclique, c'est-à-dire dès qu'il y a un moment de crise où il faut trouver des boucs émissaires, expliquer pourquoi il y a trop de pauvres, on explique que c'est des faux pauvres, ou pourquoi il y a trop de chômeurs, on explique qu'ils sont faux, etc. Et surtout, comme il y a des mécanismes un peu structurels, économiques et politiques, et une décision politique de fabriquer la précarisation, etc., la question revient régulièrement pour les divers pouvoirs, les gouvernants, le MEDEF, etc., d'imputer individuellement aux gens qui sont au chômage la responsabilité de leur situation. Donc bon, ça c'est une ligne voilà, qui s'exprime cycliquement par divers discours ou mesures. Après, ce qui est nouveau, il y a effectivement plein de choses qui sont nouvelles dans la prolifération des modes de contrôle, le croisement des fichiers, etc. Et bon, cette idéologie, elle est très installée maintenant. C'est Lionel Jospin qui déclarait en 96, à bien avant Sarkozy, avec son « travailler plus » ou « le travail, c'est la liberté », etc. Enfin, les formules de Sarkozy, bon, qu'on connaît. C'est Jospin qui disait « nous voulons une société de travail et pas d'assistance ». C'est-à-dire que bon, la gauche de gouvernement a ouvert la voie à tout un contrôle disciplinaire par le biais du travail et de l'emploi, au nom du plein emploi, etc., à toutes ces modalités de contrôle, de suspicion et de culpabilité des chômeurs et des précaires, quoi.
Bon. Et est-ce que la fusion de la NPE et des ACEDIC a accentué aussi ce phénomène ?
C'est le projet. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment fait. Mais c'est vrai qu'il y a une sale ambiance. C'est-à-dire que cette suspicion de culpabilité... Et en gros, quoi, les mouvements de chômeurs des années 90, bon, ils disaient « un revenu, c'est un dû ». Aujourd'hui, les institutions nous répondent « ton revenu, tu nous le dois ». Et donc, fais ce qu'il faut pour le mériter, on va vérifier ce que tu fais, etc. etc. Bon. À part ça, les contrôles CAF, par exemple, c'est-à-dire les visites domiciliaires de la CAF, etc., ça existe depuis bien longtemps. Il y en a 350 000 par an. Enfin, il faut se rendre compte.
Moi, je pense qu'il y a cette fusion ACEDIC à NPE. Il y a quelque chose de plus structurel derrière. Il y a quelque chose de structurel dans le fait de rapprocher le payeur de celui qui est censé accompagner et aider au retour à l'emploi. On a cette même logique de rapprochement de celui qui paye et de celui qui accompagne lors de la décentralisation du RMI en 2004 au département. Antérieurement à 2004, le RMI était payé par l'État et la mission d'insertion était assurée par les départements. Et dans les débats parlementaires qui ont accompagné le vote de la loi en 2003, à l'automne 2003, et dans les rapports parlementaires suite au vote de cette loi, il est bien dit que l'idée de la décentralisation du RMI, c'était de responsabiliser les départements dans leur mission d'insertion, c'est-à-dire en les rendant payeurs de l'allocation, on allait les pousser à être beaucoup plus efficaces dans le placement à l'emploi des allocataires du RMI. Cette logique-là, on la retrouve de la même façon aujourd'hui dans la fusion ANPE-ACEDIC. En gros, on responsabilise ceux qui s'occupent du placement en les rapprochant des payeurs. Et les payeurs ont tout intérêt à ce qu'il y ait moins de chômeurs pour que ça leur coûte moins. La CEDIC a tout intérêt à faire sortir le plus rapidement les demandeurs d'emploi du chômage pour économiser de l'argent. Cette logique-là, elle était déjà instillée par, par la loi Borloo, la loi de cohésion sociale de 2005, qui créait le service public de l'emploi et qui permettait déjà à l'époque aux ACEDIC de financer des mesures de placement. Déjà en 2005, à partir de 2005, on a la possibilité pour les ACEDIC de payer des organismes pour faire de l'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi. Et là, d'une certaine manière, c'est le payeur qui pousse les demandeurs d'emploi à travailler à n'importe quelle condition. Si on remonte plus loin dans l'histoire, on a un précédent un peu funeste. Les premiers qui ont eu l'idée de rapprocher les payeurs, c'est-à-dire ceux qui indemnisent et ceux qui font le placement, donc les premiers, en fait, c'est à l'époque de l'État français, à l'époque du régime du maréchal Pétain. C'est René Belin, par la loi du 11 octobre 1940, qui organise la fusion entre les bureaux de placement et les services municipaux d'allocation chômage. Donc, par exemple, à la BNF, vous pouvez trouver un document qui s'appelle « Un service de placement actif, une assistance accrue, voici travailleurs, encore une preuve qu'on ne t'oublie pas ». Donc, c'est une brochure à destination des chômeurs qui mobilise déjà l'idée d'activation ou d'actif. Alors, à cette époque-là, c'est appliqué à ceux qui placent et non pas aux chômeurs eux-mêmes qu'il faudra activer. Là, c'est les placeurs qu'il faut activer. Et comment on les active, ces placeurs ? Eh bien, la brochure l'explique très bien. Donc je cite un passage, page 14. C'est désormais le service de placement lui-même qui payera à ceux qu'il n'a pu placer les secours d'assistance. La loi prévoit en effet la suppression des fonds de chômage et la dévolution de leurs fonctions aux nouveaux offices du travail. Qui ne s'en réjouira ? Enfin, plus d'harmonie, plus de logique dans le système, enfin, surtout, un moteur puissant pour stimuler les offices dans leur effort de placement. Si l'office paye, il va être stimulé pour placer à n'importe quelle condition les demandeurs d'emploi. C'est cette même logique, initiée par René Belin, ministre du maréchal Pétain, qu'on retrouve dans la décentralisation du RMI en 2004 et dans la fusion ACEDIC-ANPE aujourd'hui.
Alors concrètement, comment ça se passe aujourd'hui ?
Par exemple, il faut revenir sur les secteurs du spectacle et de la culture. Bon, le discours de la réforme porté peu ou prou par la CFDT, le MEDEF, le gouvernement, etc. à l'époque en 2003, c'était il y a trop d'intermittents. On ne peut pas payer tous ces gens-là qui ne gagnent pas leur vie, qui ne travaillent pas assez, etc., qui vivent trop du chômage, etc. Bon. Aujourd'hui, déjà depuis quelques années, il y a trop de compagnies. Ça veut dire que les contrôles des intermittents, ils se font par le biais en fait, des structures employeuses qui peuvent être des microstructures avec très peu de monde, qui peuvent être associatives, etc. Et elles sont visées depuis quelques années par des contrôles de l'URSSAF, des contrôles de la DDTE, etc. Pour essayer de faire une chose très simple, essayer de dire que en fait, on verse des allocations chômage, on reconnaît comme salariés des gens qui ne sont pas dans le lien de subordination, c'est-à-dire des salariés avec un employeur, mais des gens qui sont dans une entente avec leur employeur. Et donc, on voit des gens se faire réclamer sur 10 ans, 150 000 euros d'allocation ou d'indu, etc., suite à des contrôles. Les contrôles sont, comme toujours dans ces cas-là, des trucs extrêmement manipulateurs. Par exemple, si toi, tu es intermittente du spectacle, moi, organisme contrôleur, je vais te demander de me fournir des papiers que seul ton employeur pourrait donner. Et s'il se trouve que tu peux les donner pour une raison X et que tu les donnes, ça sera une manière de prouver qu'il y a une collusion entre toi et ton employeur. Donc ça se passe de manière assez détestable, avec y compris ça va de l'URSSAF aux brigades financières et jusqu'à des procès pénaux, etc., dans certains cas, et surtout d'énormes difficultés, c'est-à-dire des gens qui, pour suspicion de fraude, ne touchent plus d'allocation pendant X temps, dont les droits ne peuvent pas s'ouvrir, etc., même si au bout d'un moment, il y a plein de cas où on a réussi à faire rétablir, ouvrir des droits, etc. Ça se passe de mille manières. Il y a eu toute une vague à un moment sur les intermittents du spectacle où on essayait de basculer les intermittents du spectacle en régime saisonnier. C'est-à-dire qu'ils touchaient beaucoup moins d'allocations et ils devaient faire, en gros, 2 fois, virgule quelque chose, plus d'heures pour obtenir une ouverture de droit, sous prétexte que 2 années de suite, par exemple, ils avaient été au chômage ou à la même période ou employés à la même période plutôt. Enfin, ils ont des espèces d'histogrammes qu'ils appellent la cheminée. Quand on fait des incursions dans les pôles emploi et qu'on fait un bras de fer pour faire décoincer ça, voilà. où on voit l'historique des périodes d'emploi de quelqu'un sur plusieurs années superposées comme ça, et où le fait d'avoir les mêmes périodes deux années de suite qui sont en chômage ou en emploi pouvait faire basculer dans le régime saisonnier. Bon, parce que le grand projet quand même en ce qui concerne l'intermittence, ça aurait été vraiment idéalement de séparer le plus possible les artistes des techniciens et éventuellement de faire aller tout ce qui ne peut pas être, ne serait pas admis comme culturel parce que pas assez artistique, etc., vers le régime général. Les intermittents, beaucoup d'intermittents pensaient vers l'annexe 4, qui est une partie du régime général, qui est celle des intérimaires, etc., mais de fait vers le régime général. Bon, il faut savoir que dans le régime général, l'UNEDIC, actuellement, on parle des intermittents, là, c'est pas une si grosse population, 100, 120 000 personnes, etc., dont une partie seulement indemnisée, hein. Mais actuellement, parmi les chômeurs officiellement inscrits, il y a 35 à 40% de la minorité des chômeurs qui sont indemnisés. Hein, il y a moins de 50% des chômeurs qui sont indemnisés. Il y en a 6 ou 700 000 chaque mois qui sont dans une situation hybride. On appelle ça des chômeurs en activité à temps réduit dans la langue administrative. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois un ou des emplois et de l'allocation chômage ou du RSA pour d'autres. Donc des gens qui sont ni des salariés au sens classique, ni des chômeurs au sens légendaire, de gens qui n'ont rien à faire avec l'emploi, enfin, qui est aussi une réalité, etc. Donc là-dessus, il y a tout un tas de choses qui se passent. Il y a eu des vagues de contrôle pas possibles. Aujourd'hui, il y avait le discours trop d'intermittents, il y a eu le discours trop de compagnies, et aujourd'hui, avec la réforme générale des politiques publiques, on en vient à un truc qui est trop de théâtre, hein, inévitablement. C'est-à-dire la capacité à programmer des trucs, à obtenir des financements, etc., dans les théâtres, là, elle va être très sérieusement remise en cause au profit de trucs de prestige, etc., d'un côté, qui vont pomper les budgets, et avec un assèchement des financements. C'est-à-dire que dans un an ou deux, il y a des théâtres qui auront une programmation si faible sur l'année que l'entretien de l'infrastructure, de salaire, etc., sera évidemment décrété déficitaire, puisqu'on aura... par avance, pas bon, la santé est déficitaire, l'éducation est déficitaire, les théâtres le seront très bien sur le papier, et on a une logique comme ça de marchandisation et de contrôle quoi, qui s'installe, et qui passe par ces contrôles. Ça veut dire que dans le milieu du spectacle, par exemple, il faut se rendre compte que les administrateurs de tout un tas de structures de spectacles ont eu tellement la pétoche que beaucoup d'entre eux sont allés au-delà de ce qui est légalement exigible pour, par exemple... dans la manière de déclarer les heures. C'est important, par exemple, de savoir si on a des cachets isolés ou groupés, c'est pas les mêmes droits aux assédiques, etc. Si on a des cachets, c'est-à-dire une durée forfaitaire d'heures, ou si on est déclaré à l'heure dans un certain nombre de boulots, etc. Et plein d'administrateurs, craignant les contrôles, etc., font quasiment du zèle, mais par peur, sur la manière de déclarer. Par exemple, ne plus déclarer en cachet 12 heures, mais déclarer à l'heure le travail, 8 heures, 9 heures, etc. Alors qu'il y avait une évaluation forfaitaire de l'emploi qui permettait d'intégrer aussi le travail en amont, à côté, etc., etc. Enfin, qui était une manière forfaitaire de reconnaître le travail qui, là, est en train, enfin, qui est remis en cause, quoi. Donc, ça a des effets. Enfin, il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans le secteur du spectacle. Évidemment, en matière de chômage, il se passe aussi, enfin, en général, il se passe aussi beaucoup de choses. Je ne sais pas s'ils font...
On va faire juste une petite pause et puis on va revenir après. On va écouter un morceau des L qui s'appelle Les Pauvres.
Je suis pauvre, je sens mauvais. Il y a mon litron qui m'a torché. Même pas d'enfant pour faire pitié. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un vieux tas de linge sale comme moi d'une cité à 3 étoiles. Je vis comme un rat sous la terre, moins crasseuse dans la crasse. Je ne veux plus voir la lumière. Je vis comme un rat sous la terre, moins crasseuse dans la crasse. Je ne veux plus voir la lumière. Je suis pauvre et je pue de la gueule. J'ai l'air un peu starbé de la tête. C'est le manque d'amour qui rend fou. La braguette ouverte sur le monde, et même que je lui pisse dessus, moi quand je pleure, c'est même pas bon. Ça se mélange avec la mort, et j'ai pas de mouchoir, c'est rien que des larmes de poivron. Ça se mélange avec la mort, et j'ai pas de mouchoir, c'est rien que des larmes de poivron. Un jour, je vais en attraper une de ces pétasses qui passe. Une belle qui transpire le savon. la braguette ouverte sur le monde. Et même que je lui pisse dessus, moi quand je pleure c'est même pas beau. Ça se mélange avec la mort, mais j'ai pas de mouchoir, c'est rien que des larmes de poivron. Je suis pauvre et je sens ma vie. Y'a mon litron qui m'attache. Même pas d'enfant pour faire pitié. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait tirer d'un vieux tas de linge sale comme moi d'une citerne à trois étoiles. Je suis comme un rat sur la terre, moi traceuse dans la crasse. Je ne veux plus voir la lumière. Peut-être même que je me suis fait violer. Forcément, quand on dort dehors, pas le droit de choisir son bonhomme. Un jour j'aurai un pistolet, je me mettrai bien au milieu. Et pan, je vous cracherai mon sale sang à la gueule. Allez.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les Amis d'Orwell et nous avons comme invité la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Donc on est avec Laurent et Christophe. On parlait tout à l'heure du flicage en particulier des intermittents du spectacle, mais ça concerne évidemment plus généralement tous les précaires. Qu'est-ce que vous pouvez en dire plus précisément, en fait, de manière plus générale.
Le contrôle des chômeurs, en fait, voilà, le contrôle des chômeurs, c'est un truc vraiment bon qui a déjà, donc, comme on le disait, une ancienneté certaine. C'est-à-dire que, bon, ça fait plus de 35 ans qu'on a déclenché la crise, c'est-à-dire qu'il s'agit de restructurer la société du salariat sous cette égide-là. Les chômeurs sont toujours en première ligne. Par exemple, la création du MEDEF, le mouvement des entreprises de France qui a succédé au CNPF, pour eux, c'était une énorme opération politique qu'ils ont appelée la refondation sociale, etc., qu'ils ont beaucoup théorisé avant de la faire. Et ils avaient sciemment décidé, avant d'en venir aux retraites, avant d'en venir à un certain nombre de choses, de commencer à marquer des points sur le chômage. C'est ce qui s'est passé en 2000, sous la gauche encore à l'époque, qui avait d'ailleurs un petit peu freiné pour des raisons diverses, etc., mais pas réellement, parce qu'il y a un consensus qui est une société de salariat doit tendre au plein emploi, même si ce n'est plus le cas depuis 35 ans et que c'est devenu un objectif mythique. Mais à cause de cet objectif mythique, le chômeur est une anomalie. Le chômeur est un malade, le chômeur est un indigne, etc. Alors même que les conditions de l'emploi actuellement sont effectivement celles-là. C'est-à-dire moi, je n'ai connu que des CDD depuis plus de 30 ans, je veux dire, de boulot. Voilà. Que des CDD. Alors, certains ont pu durer 2 ans, d'autres une demi-journée, mais il ne s'agissait pas de CDI. Pourtant, on nous raconte encore ces histoires et les chômeurs sont d'une certaine manière des anormaux à rédimer, quoi. Bon, et toujours au bord d'être des monstres et tout ça, qu'il faudrait, éliminer en tant que tel, etc. Yeah. Donc, sur les chômeurs, ça donne un truc aujourd'hui qui est vraiment vous devez entretenir votre employabilité, vous devez être là à Pôle emploi tous les mois, vous devez accepter les prestations délirantes, mais des trucs qui ont été créés déjà dans les années 70, hein, des stages parking occupationnels, mais qui ne sont pas seulement que ça, qui sont aussi des trucs à formater les gens avec toute une langue entrepreneuriale, etc. L'objectif, on est censé être chacun un entrepreneur de soi-même, du capital humain sur pattes, en train de sans cesse se refabriquer comme capital humain et employable, etc. Et il faut attester ça tout le temps, par des prises d'emploi, par du chiffre d'affaires si on est freelance, par la bonne attitude à Pôle emploi, etc. Il y a tout un théâtre social qui joue là-dedans, et les gens qui ne veulent pas ou qui ne savent pas jouer le théâtre ou qui n'ont pas les moyens, ils se font planter, quoi. Potentiellement, ils se font planter. Il y a plein de formes de résistance, par ailleurs. Mais rien que le suivi mensuel, ça veut dire qu'on programme, en fait, des radiations, parce qu'il y a plein de gens qui ne viendront pas, et on fabrique des radiations, quoi. Et pas seulement pour des raisons de fric, parce qu'on radie même des gens non indemnisés. Il y a aussi une affaire symbolique qui est de dire le gouvernement, les gouvernements, quels qu'ils soient, etc., maîtrisent ce chiffre catastrophique qui est quand même la preuve de leur incapacité à réguler la société, etc., qui est celui du chômage qui monte, etc. Il ne faut pas que ça monte, ces chiffres sont un peu bidons, parce qu'il n'y a qu'une petite partie des catégories de chômeurs inscrits qui sont citées dans les médias, etc. Mais il faut que ça baisse, il faudrait que ça baisse, ça serait ça le bon résultat.
Christophe ?
Oui, je voudrais... moi, ce que je pourrais en dire, c'est qu'il y a une sorte de combinaison infernale entre un discours politique, des mesures législatives et aussi des pratiques quotidiennes des administratifs qui font fonctionner les prestations sociales, qui aboutit à faire de la vie du chômeur ou du précaire un enfer croissant, en fait. Un discours politique de suspicion et de dénonciation des abus et des fraudes qui prend naissance, enfin qui apparaît avec Bérégovoy, effectivement, qui revient avec Bérégovoy, qui se majore en 95 avec Alain Madelin, mettant en avant le fait que le RMiste vit aussi bien que le SMICAR. Ça va entraîner la commande d'un rapport parlementaire, rapport Courson et Léonard en 96, sur les abus et les fraudes en matière de protection sociale, qui va affirmer l'existence de larges abus dans tous les pans de la protection sociale et en matière d'imposition aussi. Donc tout un discours croissant qui est parfois un petit peu adouci quand c'est la gauche qui est au pouvoir, donc c'est la réhabilitation du travail, la glorification du travail salarié, ce qui est un petit peu étonnant de la part de personnes qui se réclament du socialisme. Mais qui épargne relativement les fraudeurs ou les soi-disant fraudeurs. Et puis on a une aggravation du discours avec le retour de la droite. Je peux vous citer un exemple. Nicolas Sarkozy, élection, campagne présidentielle de 2007, discours de mots du 13 avril. Réhabiliter le travail, c'est en finir avec les politiques d'assistanat généralisé, l'impunité des fraudeurs et le gaspillage des fonds publics. Quand l'assistanat paye plus que le travail, quand la fraude reste impunie, quand l'argent public est détourné ou gaspillé, on démoralise la France qui travaille. La France qui travaille, c'est vous. La France qui ne demande rien d'autre que de pouvoir vivre en travaillant, et souvent en travaillant dur, c'est vous. La France qui veut être respectée parce qu'elle paye pour les autres, c'est vous. Donc tout ça, c'est... en gros, la droite franchit un palier et c'est le premier élément du cercle infernal. Le deuxième, c'est toute une série de mesures qui se mettent en place. Alors, c'est l'offre raisonnable d'emploi, c'est le suivi mensuel personnalisé.
Est-ce que tu peux nous donner un peu des...
Alors, Laurent, si tu peux...
En gros, il y a une loi qui comporte une réforme du code du travail et qui instaure la notion d'offre raisonnable d'emploi, c'est-à-dire du type d'offre qu'un chômeur ne peut pas refuser. Alors en gros, l'aspect raisonnable varie avec la durée. C'est-à-dire plus le chômage dure, plus il faut être raisonnable parce qu'on devient vraiment un moins que rien et puis on commence à coûter cher. Et au bout du compte, pour aller vite, en gros, ça pose des normes qui n'ont plus rien à voir avec la qualification des gens, leurs aspirations, etc., leur droit à la formation éventuellement, enfin à aucun droit finalement, ça réduit complètement les droits parce qu'avant, on pouvait imposer le fait de ne pas être payé moins que lors de son dernier emploi, même si dans la pratique, beaucoup de gens en étaient conduits par la faiblesse des allocs chômage, etc., à accepter des emplois moins bien payés ou plus loin ou dans de plus mauvaises conditions. Mais ça, ils l'ont formalisé dans une loi en disant telle durée de transport, c'est acceptable, tel type de mobilité géographique, c'est acceptable, tel type de baisse de salaire, c'est acceptable. Et au bout d'un certain temps... Alors, je crois que c'est un an de chômage. On serait supposé, mais tout ça est très théorique parce que c'est leur rêve en même temps que c'est notre cauchemar, mais c'est pas la réalité. Hein. C'est un programme, c'est leurs ambitions, c'est comme ça qu'ils voudraient arriver à faire. Ils ne peuvent pas le faire réellement pour l'instant. Enfin, il y a beaucoup de leurs rêves qui se réalisent pas. Hein. Faut pas prendre leurs rêves au pied de la lettre. Au bout d'un an de chômage, on serait censé devoir accepter un emploi payé le montant de son allocation si on en a une, donc éventuellement le RSA pour certaines personnes, 400...
Donc le revenu de solidarité active.
Voilà. donc d'accepter des emplois de plus en plus sous-payés, mais de manière légale, pas juste sous l'aiguillon de la faim ou en se disant, bon, je sais pas quoi, tout un tas de raisons qui peuvent survenir, mais de manière légale, sous peine de se voir couper ses allocations ou suspendre, etc. Ça, c'est leur projet. Alors, ce qu'il faut bien voir dans Pôle emploi, bon, la fusion a eu lieu il y a un an, ça pose d'énormes problèmes, parce qu'il y a d'un côté toute une culture d'entreprise de la CEDIC qui est celle, des gardiens du coffre-fort de l'indemnisation, c'est-à-dire essayer de transformer un intermittent en saisonnier, essayer de transformer quelqu'un qui est au régime général en régime saisonnier, verser les droits le plus tard possible, n'informer en rien sur les droits, ne justifier aucune décision, ne proposer que des voies de recours plus ou moins bidons, etc., plus ou moins internes, sur lesquelles il est difficile, sauf rapport de force collective ou ténacité, etc., d'agir. Et puis de l'autre côté, la NPE qui est censée, même si c'était faux depuis longtemps, la NPE était depuis longtemps la première boîte d'intérim de France, bien qu'elle ait une spécialité qui soit les emplois aidés pour les collectivités publiques, parapubliques et les associations, etc. Bon, enfin, quand même une logique de service public, entre guillemets, qui était on vous informe sur vos droits, on vous, éventuellement, vous aide à vous orienter parmi des formations, on se démerde avec vous, voilà, pour des reconversions, des choses, etc. La NPE, de plus en plus, dans cette affaire, obéit à des objectifs de rentabilité et surtout à une logique comptable. Bon, c'est un peu ce qu'on a pu voir dans l'analyse des réformes de la santé, etc. C'est que de plus en plus, ces administrations, elles sont complètement autoréférentielles. Ce qui va compter pour Pôle emploi, c'est combien de chômeurs convoqués, combien de patrons vus, combien de places chez des prestataires remplies de chômeurs, etc. Combien de radiations effectuées. Voilà, tout un tas d'objectifs comme ça. Disons, il y a une espèce de taylorisation de toute cette relation de service qui était censée être mise en œuvre dans la NPE ou le Pôle emploi, qui est en train de se mettre en place à base d'un économisme très étroit, d'une vision vraiment de coaching et d'individualisation des gens, etc. Si vous regardez un Pôle emploi aujourd'hui, ça ressemble à un fast-food, c'est-à-dire, certains ont l'air conviviaux parce qu'il y a des jeunes qui traînent, etc., qui viennent, bon, qui s'entendent un peu avec les vigiles. Il y a des espèces de doubles trucs qui se passent dans des fast-food. Mais à la NPE, c'est pas comme ça. C'est on rentre, on va au guichet prendre son truc, on est dispatché vers le bon plat et on sort. Et il s'agit pas que les gens se voient, il s'agit pas que les gens traînent, il s'agit pas que les gens posent des questions. Bon, même c'est pire que ça. Tout le monde a bien vu ou a entendu parler du 39-49. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive dans un pôle emploi. Bonjour, je voudrais un rendez-vous, je voudrais un renseignement, qu'est-ce qui se passe avec mon alloc, je sais pas quoi, n'importe quoi. On vous dit, regardez, le téléphone est derrière vous, appelez le 39-49, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que d'un côté, on s'insinue d'une manière très insidieuse dans la vie des chômeurs. Alors, pourquoi vous ne trouvez pas d'emploi? Je vous ai vu le mois dernier, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas réussi à postuler sur plus, etc. Et de l'autre côté, on met les chômeurs totalement à distance. Passer par le 39-49, il faut appuyer sur des touches comme tout un tas de trucs, de services après-vente, de machin comme ça. Pour les gens qui ont du mal à... c'est à reconnaissance vocale, c'est-à-dire que les gens qui ont un accent ou des trucs de prononciation, etc., ils vont avoir mal de chien à se servir de ce truc-là, ou même les gens qui ne sont pas habitués à pitonner, comme on dirait en québécois, sur un truc téléphonique pour dire, faire une commande, 1, 2, 3, 12, bon, je ne sais pas quoi, ça paume complètement les gens. On est dans une logique, là... La première année, c'était ça. La fusion, c'est un gros bordel. Il y a eu des grèves nombreuses et fréquentes. Il y a encore maintenant, chaque semaine, des grèves locales dans les pôles emploi parce que, par exemple, on leur supprime des CDD alors qu'ils ont déjà dans leur portefeuille, comme on dit. Avant, les chômeurs étaient des demandeurs d'emploi. Après, ils ont été des clients. Et maintenant, la terminologie officielle, dans un pays qui met l'égalité des chances au fronton toutes ces déclarations idéologiques, etc., c'est vous êtes des candidats à l'emploi, etc., mais comme candidat à gagner au loto ou candidat à la Starac ou etc. C'est cette logique de et maintenant à Pôle emploi, donc voilà, ça se passe comme ça. C'est un truc alors il y a plein de conflits, chaque semaine il y a des grèves locales. Il y a aussi une espèce de début de vague de suicides, en tout cas énormément d'arrêts de travail, de dépression, de gens qui vont pas bien du tout, vu ce qu'ils sont amenés à faire, parce qu'en fait ils sont mis aussi, eux aussi, dans des conditions, disons, de pression managériale, etc. Vous avez tels et tels objectifs et de doubles contraintes, c'est-à-dire vous devez recevoir le chômeur mais en même temps lui foutre des coups de pied au cul et je sais pas quoi, qui sont des trucs totalement ingérables en vrai. S'il faut recevoir les chômeurs mais que c'est 10 minutes seulement, on ne peut pas vraiment faire autre chose que de vérifier qu'il ressemble à peu près à ce qu'il faudrait, mais on ne peut pas on peut rien faire avec eux, je veux dire, si voilà.
Pour ces personnels de Pôle emploi, ça devient un univers de fausseté. Le suivi mensuel personnalisé, qui était censé être un véritable accompagnement avec le même référent, est quelque chose d'impossible à mettre en place. Officiellement, chaque conseiller Pôle emploi a en portefeuille un suivi de 90 personnes. Dans les faits, en file active, on atteint des chiffres de 200-250. Ce suivi mensuel personnalisé, qui est censé se faire en présentiel, aujourd'hui, il peut être fait par mail, c'est-à-dire un échange de mail peut compter comme un rendez-vous suivi mensuel personnalisé. Un coup de téléphone peut compter comme suivi mensuel personnalisé. Et on a des conseillers qui ont fait des entretiens collectifs, qui en gros ont reçu 4 chômeurs en même temps au titre de leur SMP. Et dans ce cadre-là, on fait signer à ces demandeurs d'emploi un simulacre d'accompagnement, un simulacre de contrat qui s'appelle le PPAE, qui n'a aucun contenu, de même que l'accompagnement proposé par Pôle emploi n'a aucun contenu.
Quand même, faut le dire aux auditeurs, quand vous allez à Pôle emploi vous inscrire ou faire un PPAE, etc., il faut toujours déclarer, quelle que soit la vérité de ce que vous voulez, etc., que vous cherchez un CDI à temps plein. Parce que ça va être une des manières de résister à l'offre raisonnable d'emploi. Si vous vous déclarez, comme n'importe qui, comme beaucoup d'entre nous, susceptible d'accepter un temps partiel ou un CDD, etc., ça fera partie des critères de départ de l'offre raisonnable d'emploi.
Donc,
prenez cette garantie. Même si vous ne cherchez qu'un temps partiel et même si vous ne voulez pas de CDI, dites le contraire, parce que ça constitue un frein à la manière dont on va vous mettre des coups de pied au cul, éventuellement vous supprimer des allocations, vous imposer des emplois, etc.
Donc,
CDI, temps plein. Vous faites après...
PPAE, ce qui est accepté peut vous être opposé par la suite. Effectivement, dire que vous êtes prêt à prendre un emploi à temps partiel, c'est une astuce pour ensuite pouvoir vous obliger à accepter un emploi à temps partiel aux conditions de l'offre raisonnable d'emploi.
Il y a quelque... Oui. Enfin, bon, je te laisse parler, mais je voulais juste aussi qu'on pense à parler du revenu de solidarité active, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Oui, j'allais y venir.
Il faut quand même dire aussi un autre truc pour les gens. Je pense qu'il y a quand même des chômeurs et des précaires qui écoutent, nécessairement, etc., Radio Libertaire. Mais sur l'histoire du suivi mensuel imposé, il faut que tout le monde sache bien. Par exemple, il y a une technique très simple pour éviter d'aller faire du cirque là-bas ou de flipper ou de... raconter des preuves de recherche d'emploi, etc. Vous prenez votre dossier Pôle emploi sur Internet. On a le droit à 35 jours de vacances dans l'année. On est obligé de déclarer des congés à partir du moment où il dépasse 7 jours. Vous vous servez de ce truc-là. Si demain, vous avez une convocation, on vous menace de radiation, évidemment, si vous ne venez pas, etc., vous n'avez pas envie d'y aller pour une raison X. Aujourd'hui même, vous prenez votre dossier, vous allez à la rubrique changement de situation, vous déclarez un congé d'aujourd'hui à après-demain et vous ne serez pas radié et vous n'aurez pas besoin d'aller à cette merde, etc. Bon, ça, c'est une des techniques de la grève des chômeurs contre cette manière de nous emmerder, etc. Il y a un certain nombre de... il faudrait pas qu'on dresse un tableau seulement sombre, etc. Il y a aussi des possibilités de résistance et des choses qui peuvent s'organiser, y compris à un niveau individuel. On a toujours le droit d'être accompagné dans ces démarches quand on va à Pôle emploi ou à la CAF, etc. C'est un droit qui est inscrit dans la loi, etc. On peut l'utiliser. Ça change complètement le rapport parce que tout système est fait pour individualiser les gens de la manière la plus absolue. Et venir avec un voisin, un ami, un syndicaliste, une association, peu importe, à la limite, même un simple témoin, c'est déjà modifier le rapport, quoi. Enfin, contre toutes ces choses-là, il y a des pratiques qui peuvent permettre de limiter la casse et de sortir un peu la tête de l'eau et de respirer un peu, de ne pas trop s'angoisser, etc. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre leur dispositif. Il faut bien voir qu'il y a aussi des parades. Bon, après, on peut parler d'organisation collective et tout ça. C'est certainement ce qu'il y a de plus efficace. Mais en tout cas, même des petites bricoles qu'il faut faire connaître aux gens, parce que on peut pas. Beaucoup de gens flippent avant d'aller à un rendez-vous, le sixième rendez-vous, truc où il s'est rien passé depuis 6 mois en termes d'emploi, de formation, de trucs, de machin. Refaire un baratin, refaire un théâtre, etc., sans perdre des plumes, sans se faire humilier parce qu'on est un minable qui est pas foutu de prospecter, de y arriver, de trouver, de je sais pas quoi. Des fois, c'est important d'y échapper, quoi. Enfin, faut le dire, parce que voilà, sinon on ne respire pas.
Alors, en termes de flicage et de contrôle des précaires, donc j'avais parlé tout d'abord d'un discours, mais ça s'est aussi concrétisé dans différentes mesures. Donc, on a parlé du suivi mensuel personnalisé, on a parlé de l'offre raisonnable d'emploi. En matière de RSA, avant ça de RMI, puis ensuite de RSA, se sont mis en place différentes mesures. Il y a eu notamment le contrôle du train de vie. Donc, c'est-à-dire le fait que le RSA, non, pas seulement le RSA d'ailleurs, ça s'applique pour la CMU aussi, que le RSA n'était plus attribué uniquement sur la base des ressources vérifiables, mais aussi d'un train de vie. Vérifier à domicile en termes de qu'est-ce qu'on possède, est-ce qu'on a une chaîne IFI, est-ce qu'on a une voiture, etc.
Est-ce qu'on a des instruments de musique,
qu'on a des instruments de musique, des œuvres d'art, un abonnement à une salle de gym. Donc ça, c'est une première forme de contrôle possible. On a eu aussi des dispositions assez incompréhensibles sur le droit au séjour pour les ressortissants communautaires. Alors c'est compliqué à expliquer, mais d'ailleurs la plupart des administratifs chargés de mettre en œuvre cette clause restrictive n'y comprennent pas grand-chose. Mais schématiquement, pour aujourd'hui, quand on est ressortissant communautaire, selon la loi, il faut avoir travaillé préalablement sur le territoire français et avoir perdu involontairement son emploi pour pouvoir faire une demande de RSA. On a aussi des dispositions de pur contrôle et de pur flicage. Par exemple, l'article R262-83 du Code de l'action sociale et des familles. Donc, à l'article 262, vous avez tout le revenu de solidarité active. Et tout ça, c'est consultable sur Légifrance. C'est toujours important de se référer à ça pour parer les mauvais coups. Et cet article dit « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit. » En gros, ça veut dire qu'un contrôleur CAF peut vous demander tout et n'importe quoi concernant votre situation à la condition qu'il estime que ça ait un rapport avec l'évaluation de votre situation.
C'est pas bouclé, hein.
Ça, c'est la loi. Alors, ouais. C'est pas forcément en application à l'heure actuelle, mais c'est un petit peu l'idée et l'intention. Et on a aussi, à partir de 2006, la mise en place d'amendes administratives en cas de fausse déclaration, par exemple. Ce genre de choses. Dernièrement, dans la loi de finances 2009 de la Sécurité sociale, on a eu la mise en place de la fongibilité des prestations CAF, c'est-à-dire qu'un indu, une somme que vous avez reçue au titre du RSA, par exemple, mais vous avez reçue en trop parce que la CAF a fait une erreur, parce que vous avez eu un retard éventuellement dans une déclaration de ressources, peut vous être récupéré non plus seulement sur le RSA, mais aussi sur d'autres prestations, toute autre prestation de la CAF. Et là aussi, ça permet de vous frapper au portefeuille très rapidement. Voilà, on a.
Ce que j'aimerais aussi qu'on puisse aborder, c'est la question du fichier, en fait, du fichier RSA.
Oui, mais bon, puisqu'on était sur le RSA, effectivement, il y a de plus en plus d'interconnexions entre tous ces services, c'est-à-dire les boîtes d'intérim, la CEDIC, le Trésor public, la Sécurité sociale, Pôle emploi, les CAF, etc., sont déjà largement en voie d'interconnexion. Aujourd'hui, ça devient très difficile de. Voilà, tout un tas de choses qui pouvaient se passer, qui étaient relativement jouables comme ça, une marge de jeu, etc., diminue. Ça entraîne d'ailleurs des problèmes énormes parce que cette interconnexion, elle déclenche des décisions de manière automatique, de trucs qui sont complètement, qui seront en fait... Il faut bien se rendre compte que dans ce domaine, les gens font peu de recours, protestent peu, etc., par rapport à la masse de fric qui est piquée, quoi. Je veux dire... Bon, je vais te donner un dernier exemple. Après, il faudra peut-être passer quand même à la logique fondamentale du RSA parce qu'il faut expliquer peut-être un peu la mesure en une seconde. Ouais. Mais voilà, on voit des gens, par exemple, qui ont mis 6 ou 8 mois à obtenir une ouverture de droit au chômage, n'ayant rien, etc. Donc, se sont inscrits au RSA, ont touché du RSA. Et à l'inverse total de la loi, la CAF, lorsqu'ils font leur déclaration, ça y est, j'ai du chômage, j'ai touché ça, etc., leur réclame de rembourser les 6 mois de RSA antérieurs à l'arrivée du chômage. Comme si le RSA était un prêt, comme si le RSA n'était pas un droit au moment où on n'a pas de revenus. Et bon, il faut faire des pieds et des mains à ce moment-là, ou se souvenir de comment ça marche et insister beaucoup pour que cet indu tombe. On a une prolifération de ce qu'ils appellent les indus, c'est-à-dire le fait qu'ils se servent tout seuls sur... à même votre prestation sur une alloc qui vous ont soi-disant trop versé, etc., où ils décident tout seuls, etc. Mais sinon, il faut quand même dire un mot de la logique de fond du RSA. C'est que là où ça bascule par rapport au RMI, c'est qu'au RMI, il y avait une marge de manœuvre qui était le contrat d'insertion soit négociable, etc. On a vu des gens inscrits dans un contrat d'insertion. Je m'occupe d'un journal culturel de quartier ou d'une organisation de chômeurs ou je ne sais pas quoi. Je m'occupe de mes dents, de ma formation, etc. Aujourd'hui, c'est emploi, emploi, emploi. Et en fait, le RSA, ce qui change complètement, on nous a présenté comme un... comme un acquis la manière dont se cumulaient les emplois et le RSA, etc. C'est totalement faux. En fait, dans le RMI, on pouvait cumuler à 100% un salaire et le RMI un certain temps, puis à 50%, puis longtemps, etc. Mais surtout, ce qui est en train de se produire, c'est vraiment de pérenniser la catégorie des travailleurs pauvres, c'est-à-dire toute cette catégorie de gens qui ont des faibles salaires, y compris en CDI, c'est-à-dire la précarité va bien au-delà du CDD, on a parlé des CDD, mais la plupart des gens qui sont à McDo et dans la grande distribution, ils sont en CDI à temps partiel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas démissionner parce qu'ils sont en CDI, ils perdraient 4 mois d'alloc parce qu'il faut faire la preuve qu'on est chercheur d'emploi pendant 4 mois où on n'a rien, etc. Ils ne peuvent pas démissionner sauf s'ils trouvent un meilleur boulot, un truc moins pire, machin, etc. Et aujourd'hui, on prépare ça. Des gens, on peut même avoir 2 CDI avec 3 heures hebdo là et 4 autres là et un bout de RSA, etc. Et c'est ça qu'on est en train d'instaurer comme nouvelle norme d'emploi à travers le RSA. Donc ça, c'est quand même un truc assez fondamental par rapport au devenir du salariat dans sa... Voilà. À part ça, il faut dire 2 mots quand même en perspective. C'est que là, il y a quand même des choses qui se préparent. Entre autres, on est un certain nombre de collectifs en France avec des collectifs de chômeurs, de précaires, etc. à lancer un mot d'ordre de grève des chômeurs, donc de refus de toutes ces pratiques de contrôle, de suivi mensuel, de soumission, de théâtre de l'employabilité, de soumission à l'économie, etc. Donc on invite les gens à regarder les textes un peu autour de tout ça et à passer pour en discuter. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on fait chaque semaine pour débloquer des dossiers, pour mettre au pas tel ou tel truc, etc., là, on voudrait que ça se passe de manière... Enfin, on est en train de préparer le mieux possible et on invite les gens à le préparer avec nous, le faire le plus collectivement possible, que ça soit d'échanger des recettes de ce genre... et de les faire connaître, etc., ou même, évidemment, d'organiser des actions collectives plus amples, sachant qu'il va y avoir de nouveau une négociation de la convention UNEDIC cette année, c'est-à-dire que très vraisemblablement, ils vont faire encore une contre-réforme qui réduira les droits pour faire dégringoler le plus possible vers le RSA, le maximum de gens, le RSA comme modèle, quoi.
Tu nous redonnes le site internet ?
Ah oui,
de la CIP. D'accord.
Alors, c'est cip-idf.org. Voilà.
Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes les émissions des Amis d'Orwell sur le site souriez.info.
Et on se quitte avec Iggy Pop avec In the Death Car.
To ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Play.
breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly.